Proverbes 8 et 9. En Proverbe 8. Écoutez, la sagesse appelle, la raison élève la voix. Elle est postée sur les hauteurs, le long des routes, au carrefour, tout près des portes de la ville, là où l'on passe pour rentrer, elle fait retentir sa voix. C'est chacun de vous que j'appelle, c'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. À vous qui manquez d'expérience, apprenez donc à réfléchir, et à vous insensés, devenez donc intelligents. Écoutez-moi, car j'ai à dire des choses capitales. Ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Oui, ma bouche proclamera la vérité. Le mal fait horreur à mes lèvres. Et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y a pas de fourberie, rien de retors dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Elles sont droites pour qui trouve la connaissance. Recherchez mon éducation plutôt que l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or, l'or le plus pur. Car la sagesse est préférable aux perles précieuses, et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. Moi, je suis la sagesse, j'habite à côté de la réflexion, j'ai découvert l'art de penser. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. C'est à moi qu'appartient le conseil et la réflexion. Je suis l'intelligence et possède la force. C'est par moi que règnent les rois et que les dirigeants décrètent des lois justes. Par moi gouvernent tous les chefs, tous les hommes d'État et tous les magistrats sur terre. Moi, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Je suis accompagné de la richesse et de l'honneur, de bien durable, de la justice. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin, et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Je marche sur la voie de la justice, et je suis les sentiers de l'équité pour combler de bien ceux qui m'aiment, et remplir leur trésor. L'Éternel m'a donné naissance tout au début de son activité, et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Oui, j'ai été formé dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe, et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni les premiers grains de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là, quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, je me tenais bien fermement à ses côtés, me livrant sans cesse aux délices et jouant en tout temps en sa présence. Je jouais sur la terre dans le monde habité et trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car l'homme qui m'écoute, qui vient à veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison, car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même, celui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti une maison et elle en a taillé les 7 colonnes. Elle a apprêté une bête, elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut du haut des lieux les plus élevés de la ville. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare, venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Corriger le moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La sagesse commence par la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est le discernement. Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en supporteras toi seul les conséquences. Dame Folie est bien bruyante. Elle est sans expérience, elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège au point le plus élevé de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. Approchez-vous donc, vous qui n'avez pas d'expérience. À ceux qui manquent de bon sens, elle déclare « Les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. » Voilà, je vous invite à garder ce texte sous les yeux et on va ensemble se poser quelques questions à ce sujet. Je me demande si il y en a parmi vous qui avez déjà assisté à une conférence de presse ou si vous avez vu ça à la télé, dans le journal. Par exemple, pour un nouveau candidat qui va se présenter aux élections, il va faire une conférence de presse où l'idée est qu'il se présente, que les gens essaient de le connaître. Dans la salle, les journalistes vont commencer à poser des questions pour connaître qu'est-ce qu'il veut faire, quel est son programme, comment il est, quelle était sa vie avant, pourquoi il a décidé de se lancer, par exemple, en politique pour se faire élire. Et ce matin, le texte qu'on a lu s'apparente un peu à un discours, donc j'aimerais qu'on puisse un peu comme dans une conférence de presse poser des questions pour connaître la sagesse, pour apprécier ce qu'elle veut apporter. Et je vous invite donc en particulier les collégiens à être les journalistes. Donc si tu peux faire passer les quelques questions aux collégiens et puis aussi en reste à ceux qui sont un peu plus grands. Je vais donc vous inviter à plusieurs étapes à poser à haute voix les questions et je ferai donc le porte-parole de la sagesse pour essayer de répondre à vos questionnements pour que vous connaissiez mieux la sagesse. J'espère qu'il y en a assez. Alors, je vais demander à un journaliste présent de la salle de commencer par... Est-ce qu'il y a une question dans la salle ?
Oui, moi j'ai quelques questions.
Oui.
Ça par rapport à des journalistes, ça par rapport
oui, tu, à... en fait, tu lis la première question qui est dans le... Oui, ici d'abord et puis après.
Pour qui se destine la sagesse ? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde ?
Excellente question, merci.
Alors... C'est quand même avec conférence de presse en fait, oui. C'est comme ça.
Alors, tout d'abord, les premiers versets de notre texte aujourd'hui, donc au chapitre 8, le disent très clairement. La sagesse crie et parle tout haut. Donc la sagesse, elle se place ici, comme on le lit, dans des endroits élevés, en hauteur. Donc de là, elle peut crier, atteindre du monde. On dit aussi qu'elle se place à des endroits passants, donc à l'entrée de la, à la porte de la ville, au carrefour, donc là où il y a du passage, donc des endroits très fréquentés. Et on peut donc dire que la sagesse, elle fait son maximum pour être accessible, pour que là où on passe, là où on aille, on puisse avoir, on puisse entendre la sagesse qui appelle en fait et qui crie. Et elle multiplie donc les possibilités de pouvoir la rencontrer. Et donc ici, le discours, si on peut dire que la sagesse se lance, elle dit qu'elle s'adresse à tous les humains. Donc c'est très clair, la sagesse est destinée à tous les humains, elle le dit ici au verset 4 du chapitre 8. « C'est chacun de vous que j'appelle, c'est pour vous, les humains, que ma voix se fait entendre. » Donc il n'y a pas ici de distinction entre homme, femme, quelqu'un qui a fait de grandes études, quelqu'un qui n'en a pas fait, riche, pauvre, blanc ou noir. Ici, la sagesse vraiment se destine à tous. Elle appelle tous les hommes à elle. Et en particulier, donc, elle précise un peu plus ici, surtout ceux qui sont... ceux qui manquent d'expérience, ceux qui sont, selon elle, insensés même. Elle les appelle en particulier à venir à elle pour recevoir cette sagesse. Et le texte nous dit aussi que la sagesse, elle se laisse en fait trouver par ceux qui la recherchent. Le verset 17 du chapitre 8 renforce cela. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent ne manque pas de me trouver. Donc la sagesse, elle appelle tout le monde et elle se laisse trouver par quiconque la recherche. Et en plus de cela, l'image du festin, donc de la fête, préparée avec des invités, renforce cette idée parce qu'au chapitre 9, on a vu que la sagesse préparait un festin et puis elle a commencé à envoyer des invités, les servantes, appeler les invités pour venir assister à cette fête. Donc une fois de plus, on voit cette invitation à tous, cette ouverture de la sagesse à tout le monde, et elle veut que tous viennent à elle. Il y a cependant une catégorie de personnes que la sagesse dit qu'ils n'auront pas accès à elle. Et ce sont les moqueurs. Ici, on parle beaucoup, on revoit plusieurs fois ce terme moqueur qui revient. En particulier donc, au chapitre 9, où on voit une partie où la sagesse dit ben, « Si vous essayez de corriger un moqueur, c'est pas la peine, il va pas vous écouter, ça va juste vous attirer des ennuis. Le méchant, celui qui est orgueilleux. » Donc la sagesse appelle, mais ces personnes-là, malheureusement, si elles restent dans leur état de moqueur, n'auront pas accès à cette sagesse et ils ne pourront pas en profiter. Donc pour résumer très rapidement et répondre à votre question, donc la sagesse est accessible à tous. Elle s'adresse à tous les humains. Mais ceux qui, malheureusement, restent orgueilleux ou moqueurs n'auront pas accès et ne pourront pas profiter de ce qu'elle peut apporter. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui.
Alors, qu'est-ce qui caractérise la sagesse? Quelle est sa personnalité et ses particularités?
Merci. Alors... ici, si on revient à ce que la sagesse dit sur elle, on voit tout d'abord que la sagesse dit que ce qui la caractérise, c'est qu'elle parle de manière juste. Et cette idée de justice est très importante à ses yeux. Donc on voit chapitre 8, verset 6, verset 8, verset 9, verset 15, verset 20, plusieurs fois, la sagesse dit, ce sont des paroles justes qui franchiront mes lèvres. Elle dit, mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Donc c'est, on voit que c'est quelque chose d'important pour la sagesse, cette justice, la notion de parler avec justice, d'agir avec justice. C'est un point qui caractérise la sagesse. Et avec cela, donc, vient la vérité, hein, une notion qui est liée aussi à la justice. Ma bouche proférera la vérité. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas séparer de la sagesse. La justice et la vérité, ce sont des caractères fondamentaux de la sagesse. Et elle se caractérise donc aussi par la haine du mal, la haine du mensonge. C'est mentionné aussi plusieurs fois ici. La sagesse ne peut pas vivre, on va dire, en restant avec le mensonge, parce que c'est des choses qu'elle déteste, qu'elle haït, comme on nous le dit ici, verset 13 du chapitre 8. Donc, une fois de plus, on rappelle que la sagesse aussi déteste l'orgueil. Et ici, c'est mentionné spécialement au verset 8 encore du chapitre 8. Il n'y a pas de fourberie, ni rien de retors dans mes paroles. Et il va le dire un peu plus bas aussi qu'il déteste vraiment les menteurs, verset 13. L'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Voilà des choses que la sagesse déteste parce que c'est contraire à son caractère qui est marqué par la vérité et la justice. Donc celui qui souhaite acquérir la sagesse va se détourner donc de ces choses qu'elle a en horreur, de l'orgueil, du mensonge, parce que comme on l'a dit, c'est pas compatible avec le caractère de la sagesse. Au contraire, ce qui caractérise la sagesse, c'est aussi la réflexion. Ici, comme on le dit au verset 12 du chapitre 8, la sainteté qui est liée donc à la réflexion, la circonspection et la prudence. Voilà des caractères qui sont aussi retrouvés dans la sagesse. La sagesse nous dit aussi qu'elle a été présentée à l'origine du monde, avant même que Dieu ait créé la terre. La sagesse était déjà là. Donc on peut dire que c'est... Il y a vraiment les années d'expérience, des milliers d'années d'expérience dans la sagesse. Et elle a été utilisée par Dieu pour la création de l'univers. Et on le voit d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la perfection... dans la manière où Dieu a créé l'univers, on voit la perfection des choses, on voit que tout a été fait avec minutie, et c'est donc la sagesse que Dieu avait utilisée à la création du monde qui permet encore aujourd'hui de maintenir tout l'univers en fonction et en ordre. Et depuis donc la présence de la vie jusque dans nos plus petites cellules, et jusqu'à dans la puissance ici qui est mentionnée de la nature, dans la grandeur des astres, on voit que la sagesse a été utilisée pour la création de toutes ces choses. Donc pour résumer, les caractères qu'on retrouve dans la sagesse et qui sont importants pour elle, c'est la justice, la vérité, avec cela donc la haine du mal, la haine de l'orgueil et du mépris. Et enfin, elle est caractérisée par sa présence dès la création du monde, Elle a été employée par Dieu pour mettre en place tout l'univers. Donc elle montre vraiment la puissance de Dieu et sa sagesse incommensurable. Donc j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Oui.
Par Kéline Daniel, journaliste pour le magazine Le Pan.
Oui.
Quel bienfait la sagesse apporte-t-elle? Quel avantage en tire-t-on?
Oui, tout à fait. On arrive à la question des avantages, bien sûr. Alors, ici, la sagesse nous dit qu'elle a en effet plusieurs bienfaits qu'elle nous amène, qu'elle nous apporte. Et on peut commencer par souligner d'abord que la sagesse dit que ce qu'elle apporte a plus de valeur que les choses matérielles qu'on peut voir, l'or, l'argent. On peut en effet désirer toutes sortes de biens. Ici, on parle de pierres précieuses, d'or, d'argent. Et de notre temps, donc d'aujourd'hui, on pourrait désirer aussi toutes sortes de choses, de belles maisons, des voitures de luxe, des gadgets de toutes sortes. Mais la sagesse nous dit ici, chapitre 8 toujours, versets 10 et 11, « Recherchez mon éducation plutôt que l'argent, et choisissez la connaissance plutôt que l'or le plus pur, car la sagesse est préférable aux perles précieuses et les biens les plus désirables ne sauraient l'égaler. » Donc ce qu'elle apporte la sagesse, c'est quelque part incomparable avec tout ce que nous connaissons dans notre système de valeurs. Ça va au-delà de toutes ces belles choses que nous pouvons imaginer ou désirer. La sagesse nous dit aussi qu'elle apporte vraiment les bons conseils, ce dont donc, nous avons besoin pour vivre notre vie au quotidien. Et nous en avons besoin vraiment dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, dans nos relations, dans nos choix de vie, dans la manière dont nous éduquons nos enfants. Dans tout cela, la sagesse nous apporte de bons conseils et c'est ce qu'elle nous dit au verset 14 du chapitre 8. C'est à moi qu'appartiennent le conseil et la réflexion. Donc voilà un bienfait essentiel que la sagesse nous apporte. La Bible nous dit aussi ici, toujours sur ce verset 14, que la sagesse donc et l'intelligence, et elle possède la force, donc elle peut aussi procurer cela. En particulier, elle mentionne ici donc ceux qui sont à des postes d'autorité. Il y a les rois, les gouvernants, les chefs, les hommes d'État, les magistrats. C'est avec cette sagesse qu'ils peuvent exercer de manière juste, de manière à faire du bien donc, dans leur responsabilité. Donc ça, c'est un point important aussi qu'apporte la sagesse. Et en plus de cela, donc, la sagesse dit même dans ce passage qu'elle peut aussi apporter même ses biens et richesses et trésors que nous voyons dans le monde, donc les versets 18 et 21, toujours de ce chapitre 8. On voit très bien l'histoire de Salomon lui-même dans la Bible, qui avait demandé à Dieu la sagesse, qui avait demandé à Dieu d'être un bon roi pour diriger équitablement son peuple. Et Dieu l'a aussi béni vraiment de richesses matérielles et physiques. Car dans sa bonté, vraiment, Dieu peut utiliser cette sagesse pour utiliser au mieux aussi toutes ses richesses, tous ses biens de valeur. Voilà un autre bienfait de la sagesse. Et si nous allons au chapitre 9, au verset 11, la sagesse nous dit qu'elle apporte aussi la longue vie. la longue vie, non seulement la longue vie, mais la possibilité d'en profiter. Et donc celui qui a la sagesse peut vraiment vivre dans ce monde présent de manière à, quelque part, en tirer le mieux les avantages. Et comme le dit le verset 35 du chapitre 8, celui qui a trouvé la sagesse a trouvé la vie. Et plus tard, nous verrons que cette vie, c'est aussi non seulement la vie sur terre, mais l'autre vie qui vient après. Donc en résumé, la sagesse apporte de multiples bienfaits pour la vie sur terre aujourd'hui, mais aussi pour une vie plus tard, une vie éternelle avec Dieu. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière ou avant-dernière question dans la salle? Oui, au fond, là-bas.
Est-ce que le thème pour le jour-là de la croix, que pouvez-vous dire sur la concurrence directe de la sagesse?
Oui, tout à fait, très très pertinente question. Il faut parler un peu de la concurrence, c'est vrai. Donc la concurrente directe de la sagesse, bien sûr, c'est la folie. Et nous pouvons voir que dans ce passage, dans le chapitre 9, la folie va essayer aussi, comme la sagesse, d'attirer à elle des personnes, de faire venir à elle des humains. Et tout comme la sagesse, on voit que la folie se met aussi à des endroits stratégiques. Elle se place aussi en hauteur, au sommet donc de la ville pour pouvoir atteindre un grand nombre de personnes. Et c'est ce qu'on voit donc au chapitre 9, verset 13. Mais contrairement à la sagesse, la folie, elle n'y connaît rien, donc elle est bruyante, elle fait des bruits, elle parle non de manière intelligible, si on peut dire, mais elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Pourtant, elle appelle à elle les humains. Donc, c'est aussi comme l'appel que faisait la sagesse au chapitre 8. Ici, au chapitre 9, la folie appelle aussi à elle et se rend elle aussi accessible tant qu'à tous. Elle le dit ici, verset 16 du chapitre 9. « Approchez-vous donc, vous qui n'avez pas d'expérience. » Et elle appelle donc tous les humains, tous ceux qui... manque de bon sens, comme on le dit ici. Elle les appelle aussi à elle à venir prendre de la folie comme la sagesse, appeler les humains à venir à la sagesse. On voit que la folie essaie de copier la sagesse, elle fait appel, elle crie aussi, elle se place à des endroits accessibles pour appeler les humains à elle. Mais tout son caractère est lui par contre contraire à celui de la sagesse. Et comme on le voit ici, ce qu'elle prône va à l'encontre de la justice et la vérité qui étaient ce qui caractérisait la sagesse. Si au contraire, elle, ce qu'elle prône ici, c'est plutôt le vol, les cachotteries. Ici, on nous dit que les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est plus savoureux. Ça nous ramène à l'idée d'utiliser quelque part son intelligence pour avoir des choses de manière douteuse, de manière peu recommandable. Donc ce que la folie veut mettre en avant, c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'encontre de la sagesse, des principes importants de la sagesse. Et à l'opposé, donc, on avait vu les bienfaits apportés par la sagesse. Ben, au contraire, ici, la folie, elle apporte la mort. Ceux qui, on dit ici, ceux qui vont à elle courent vers le séjour des morts. Et il y a la mort là où elle est, donc la mort est rassemblée. Donc en résumé, voilà, la concurrence, vous voyez très bien qu'elle ne fait pas le poids devant la sagesse. Et aujourd'hui, donc, c'est à nous les êtres humains à qui ces deux s'adressent, c'est à nous de faire le choix aujourd'hui. Donc je vais laisser une dernière question dans l'audience, oui.
Mais du coup, qu'est-ce qu'on attend donc de nous? Que devons-nous faire?
Voilà, tout à fait, donc c'est l'excellente question à se poser. Qu'est-ce qu'on attend de nous, les humains? Donc aujourd'hui, ce passage nous a présenté deux candidats, la sagesse et la folie. Et j'ose espérer que ce que vous avez vu dans le caractère de la sagesse vous a convaincu de la choisir et que donc vous décidiez de suivre la sagesse. Et le passage nous dit que si vous avez décidé de choisir la sagesse, par où il faut commencer, c'est, comme on le lit au verset 10 du chapitre 9, « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. » Donc c'est le point clé pour commencer à choisir la sagesse. C'est commencer par la crainte de l'Éternel, donc révérer l'Éternel. Et cela, c'est donc révérer Dieu. C'est donc le respecter profondément. Révérer Dieu, c'est tenir compte de sa parole, de ce qu'il a dit, de sa volonté, et l'intégrer dans notre vie, dans nos choix au quotidien, dans nos décisions. Tout ce que nous faisons doit être donc dans montrer que nous respectons Dieu, que nous le révérons. Et c'est par là que la sagesse commence. Donc c'est la première étape, c'est vraiment de se tourner vers Dieu, de le reconnaître comme Dieu et de le respecter, de le révérer. Et donc la sagesse, comme on le lit dans la suite de ce verset 10, chapitre 9, on nous dit la science des saints, c'est le discernement. Donc la sagesse s'accompagne aussi de cette idée vraiment de réflexion, de discerner le bien, le mal, ce que Dieu veut, ce que Dieu déteste, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce qu'il a en horreur. Discerner ces choses, c'est un point essentiel pour grandir dans la sagesse. Et comme Dieu est saint, nous aussi nous sommes appelés à devenir de plus en plus saints, à agir de manière qui reflète de plus en plus notre sainteté. Donc nous sommes en recherche de cette vie de sanctification qui grandit de plus en plus au fur et à mesure où nous acquérons la sagesse qui vient de Dieu. Donc notre crainte de Dieu grandit, notre connaissance de la volonté de Dieu grandit, et notre manière de vivre est aussi impactée par cela. Et donc non seulement nous commençons à révérer Dieu, à l'honorer, mais nous continuons aussi à écouter, comme on l'a vu dans ce texte, plusieurs fois la sagesse appelle à écouter. Elle le dit ici clairement, « Écoutez-moi ». Écoutez mes paroles, c'est un point important pour grandir en sagesse. Et donc ça, c'est l'écoute de l'enseignement de la Bible, l'écoute de la parole de Dieu, la méditation de ce que la Bible nous dit. Et comme on l'a vu, la sagesse nous appelle à la rechercher plus que l'or, l'argent, plus que les biens de ce monde. La recherche de cette sagesse, la recherche de la compréhension de la volonté de Dieu et de ses désirs doit donc être aussi, quelque part, mise en évidence dans notre vie, dans notre emploi du temps, dans notre agenda, dans nos projets. On doit voir qu'on consacre du temps pour réfléchir à la volonté de Dieu, pour écouter la Bible et comprendre davantage ce qu'elle nous dit. Donc le temps que nous accordons à cette compréhension, à cette écoute de Dieu, est important pour grandir aussi en sagesse. et pouvoir, bien sûr, la mettre en pratique dans nos vies, au quotidien, aujourd'hui. Un point important aussi que nous dit ce passage, c'est que celui qui veut avoir la sagesse doit savoir écouter les conseils, les corrections qu'on lui... les personnes qui, qui la corrigent. Et contrairement aux moqueurs et aux méchants qui, eux, ne se laissent pas du tout reprendre, qui, eux, n'ont pas une oreille attentive aux réprimandes, celui qui veut grandir en sagesse doit plutôt garder vraiment les oreilles ouvertes à la correction. Parce que c'est comme cela aussi que nous apprenons et ça peut des fois paraître inconfortable de se faire reprendre ou réprimander ou critiquer même. Mais la sagesse, elle dit qu'elle déteste l'orgueil. Donc vraiment, éloignons de nous tout orgueil qui pourrait nous empêcher de grandir en sagesse. Et la Bible ici nous rassure que oui, c'est pas un chemin facile de grandir en sagesse, de mettre en pratique cela. Mais le verset 12 du chapitre 9 nous dit que si tu es sage, c'est toi qui en profiteras. Mais si tu es moqueur, tu en porteras les conséquences. Donc, au lieu de nous moquer ou de rejeter l'enseignement de la Bible, l'enseignement qu'on peut entendre à l'église par les frères et les sœurs, soyons plutôt attentifs et nous pourrions en profiter. Donc voilà pour ce que nous devons faire. Et le passage donc d'aujourd'hui nous a présenté la sagesse, nous demande de choisir la sagesse, de venir à elle. Et dans les caractères que nous avons vus dans la sagesse, nous voyons vraiment le caractère de Dieu lui-même en réalité. Dieu est celui qui, comme la sagesse, appelle aussi tous les hommes à venir à lui. Librement, il essaye par toutes sortes de moyens, à des endroits différents, il appelle tous les humains à venir à lui. Et il s'est rendu accessible aussi à nous. À travers Jésus-Christ qui est venu lui-même sur terre en tant qu'homme pour se rapprocher encore de nous. Et voilà la crainte de Dieu, révérer Dieu, c'est reconnaître que ce Jésus-Christ est Dieu et que c'est par lui aussi que commence vraiment cette sagesse, cette connaissance de Dieu. Et en connaissant Jésus-Christ, nous allons découvrir la vie, comme le dit ce passage, celui qui a la sagesse va avoir la vie, et ce n'est pas seulement la vie ici sur terre, mais c'est aussi la vie éternelle que Dieu nous promet. Donc c'est à cela que je vous invite aujourd'hui, chacun de nous, à tourner nos yeux, recherchant la vraie sagesse pour trouver la vraie vie, la vie éternelle. Donc pour finir cette conférence de prêche, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon et tu nous appelles à être sages. Tu te révèles à nous dans ta parole et tu nous montres les caractères de la sagesse, les caractères que tu veux aussi trouver en nous. Et puisses-tu continuer à forger nos cœurs, nos pensées, à nous aider à vraiment à rejeter l'orgueil, à enlever toute forme de moquerie en nous qui nous empêcherait de grandir en sagesse. Et au contraire, que nous soyons attentifs à ta parole, attentifs aux bons conseils et aux enseignements que tu nous apportes, et à les mettre en pratique, afin de posséder la vie et de grandir et de posséder la vie éternelle avec toi. Merci notre Dieu. Amen.